Terre, le 18-20.
Si vous êtes fumeur, vous avez forcément vu cette image au dos de votre paquet de cigarettes, un bébé clope aux lèvres. Eh bien, à quand la même image, mais avec un smartphone ou une tablette? La question a lieu d'être, car les dangers de la surexposition des jeunes enfants aux écrans sont bien réels, de mieux en mieux connus. Retard de langage et de développement, troubles de l'attention, du sommeil. Des enfants qui, à 3 ans à peine, ne recherchent plus les autres, passant de l'apathie à la surexcitation. La liste est longue et inquiétante. Alors que vous soyez encore un enfant, un ado, et bien sûr des parents, parents inquiets ou pas, dépassés ou non. On attend toutes vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000, sur internet franceinter.fr et sur Twitter, hashtag Telson.
Michaël Thébault, le téléphone sonne.
Et c'est Véronique qui ouvre ce téléphone sonne. Vous nous appelez de l'Ain, Véronique. Bonsoir, soyez la bienvenue, nous vous écoutons.
Bonsoir, alors je vous appelle, moi je suis institutrice dans l'Ain depuis une quinzaine d'années. Ça fait 8 ans à peu près que j'ai des maternelles et effectivement, voilà, les problèmes de langage sont récurrents et le fait que les enfants n'arrivent pas à se poser, sont un petit peu des piles électriques ou des marsupilamis, comme je les appelle en rigolant, c'est de plus en plus. Et nous, au niveau de l'école, on s'est intéressé à ça et donc on mène une semaine sans écran depuis 8 ans pour essayer de pallier à ça parce qu'on a vu, oui, que les enfants arrivaient après avoir eu déjà une demi-heure, une heure de télé le matin. Et puis qu'ils en avaient encore le midi, et puis que à la moindre occasion, quand il faut attendre, en fait, ils ont soit le téléphone, soit la tablette. Donc voilà, on mène une
semaine. Mais là, on parle d'enfants de quel âge précisément, Véronique ?
Eh ben 3, 4, 5 ans, les enfants de maternelle, c'est flagrant, oui. En fait, la télé ou les écrans en général, parce que maintenant c'est les téléphones, puisqu'on les a tout le temps sous la main, et les tablettes, elles hypnotisent. Et du coup, les enfants, ils parlent moins, ça leur boycotte en quelque sorte la parole qu'ils peuvent avoir avec leurs parents.
Et cette semaine sans écran que vous avez lancée il y a déjà 8 ans, ça se passe comment? Quelle est la réception des enfants?
Alors, on discute beaucoup en classe, c'est-à-dire qu'en amont, au moins, en tout cas moi en maternelle, c'est au moins un mois ou deux avant. Et puis pareil, là, je suis encore en train de continuer alors qu'on vient de finir la semaine sans écran il y a une quinzaine de jours. Donc on discute sur qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les attire vers les écrans, et puis on leur montre que la vraie vie, elle est quand même ailleurs. Et donc, on organise des activités extrascolaires sur cette semaine pour leur montrer que, voilà, la vraie vie, c'est avec nos 5 sens et que les écrans, c'est un petit plus pour de temps en temps. On les diabolise pas, on montre que c'est bien, mais qu'il faut savoir un, trier et deux, limiter le temps qu'on y passe. Parce que certains enfants sont à 3 heures par jour facilement, même en maternelle.
Même en maternelle. Ouais. Merci beaucoup Véronique, parce que là on a tous les éléments pour ce téléphone sonne. Pour vous répondre ce soir, Anne-Lise Ducanda, bonsoir.
Bonsoir.
Médecin de PMI, c'est-à-dire protection maternelle et infantile à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Et bonsoir Carole Van Hout, orthophoniste dans le Val-de-Marne, cofondatrice de l'association Joue, Pense et Parle. Et bien sûr Daniel Messager, spécialiste des questions de santé ici à France Inter.
Bonsoir.
Je précise Anne-Lise Ducanda, que vous avez co-signé il y a une semaine une impressionnante tribune dans le quotidien Le Monde, sur les dangers précisément de la surexposition aux écrans, surexposition que vous qualifiez d'enjeu majeur de santé publique, et on va évidemment y revenir. Qui veut réagir tout de suite au témoignage de Véronique? Anne-Lise Ducanda.
Alors, bonjour. Déjà, je voudrais préciser que Carole Van Hout, qui est ici, a co-signé la tribune dans le Monde avec moi aussi.
Pardon.
On fait toutes les deux partie du collectif qui a signé cette tribune. Oui, je veux bien réagir. Alors, je suis pas du tout surprise de la réaction et du témoignage de cette enseignante. Je travaille évidemment comme médecin de PMI avec toutes les enseignantes de petite et moyenne section et enseignants de la ville où je travaille. Et ils me disent exactement la même chose. Effectivement, l'écran, c'est vraiment l'outil que les parents ont trouvé très facile pour calmer l'enfant, l'occuper. Et quand elle dit quand il faut attendre, on sort l'écran, je pense que effectivement c'est important d'apprendre aux enfants à attendre, à patienter, à s'ennuyer, et c'est ce qu'ils font plus maintenant. Les troubles de l'attention, ils sont
elle
de
parlait
plus...
de piles électriques, de marsupilamie,
mais on ne peut pas imaginer. On a des enfants qui en 5 minutes retournent un bureau. Ils touchent à tout, ils prennent tout, ils jettent tout. On ne peut pas croiser leur regard qu'ils ne se posent pas. Ils sont très, très agités. Donc, vous imaginez dans une classe de 25-30 petites sections de 3 ans, comment ça peut se passer?
Mais comment est-on sûr, je joue l'avocat du diable, mais comment est-on sûr de ce lien direct entre les écrans et ce type de comportement, Carole Van Hout?
Alors, est-ce qu'on peut vraiment être sûr ? Nous faisons des hypothèses. Il y a un argument qui est vraiment de poids, c'est-à-dire que ces enfants-là, quand on questionne un petit peu les parents, c'est aussi notre métier hein, d'accompagner les parents et de les questionner, on s'aperçoit que le temps d'exposition... Alors, l'auditrice parlait de 2-3 heures. Dans les cabinets actuellement d'orthophonie, on est à 6 à 7 heures d'exposition par jour.
Alors, pour des enfants qui ont quel âge ?
Pour des enfants qui ont entre eux, qui ont été exposés en fait dès la naissance et dont c'est l'ultime en fait stimulation. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est très important. Pour revenir à la question, le fait quand on demande aux parents de qu'est-ce que l'enfant fait, de à quoi il joue, comment il s'occupe, si on leur demande soit d'éteindre complètement tous les écrans, soit de diminuer, on s'aperçoit que l'enfant redémarre, hein, c'est-à-dire qu'il reprend un petit peu le cours normal de son développement. Donc, sans établir un lien vraiment scientifique patent entre surexposition et retard de langage. Soit le retard de langage, maintenant, il est vraiment démontré dans plusieurs études.
Oui, c'est avéré, oui.
Voilà, avéré. Maintenant, au niveau de la communication, au niveau de l'attention, ça vient aussi. Mais ce simple fait d'arrêter les écrans, et ça permet à l'enfant de repartir, ça permet aux familles de repartir en interaction, pour moi, est quelque chose de très important et un argument de poids qu'il faut faire passer aux familles.
Daniel Messager.
Alors, je voudrais revenir juste 2 secondes sur la tribune que vous avez donc co-signée, qui fait suite aussi à une vidéo, docteur Ducanda, que vous aviez postée sur le net, parce que l'enseignante qui intervenait au début de l'émission parlait de troubles du comportement. Ce sont des enfants qui sont effectivement facilement irritables, qui ne savent pas se contrôler, qu'on a du mal à modérer. On peut parler aussi de troubles de développement, et c'est ça que vous mettiez en avant dans votre tribune, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui n'ont pas d'échange entre eux, entre enfants, des enfants qui n'ont pas d'échange ou peu entre des adultes aussi, et ça participe du développement du cerveau de l'enfant. Ces échanges sont absolument indispensables. Donc il y a les conséquences et il y a tout ce phénomène de développement du cerveau sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un peu parce que il est extrêmement important, parce que ces lacunes que ces enfants rencontrent dès le petit âge, ils vont avoir beaucoup de mal à les combler par la suite.
Alors, Carole Van Hout.
Pour répondre à cette question, c'est vrai que l'ensemble des connexions en fait des neurones, c'est entre 0 et 3 ans. D'accord ? Donc ça c'est un fait. Et plus en fait l'enfant va être sollicité, plus l'enfant va être en interaction. Mais alors quand on parle d'interaction, on va parler de l'enfant avec des adultes, de l'enfant avec les parents, mais n'oublions pas aussi les interactions avec les objets, parce que le réel détermine quelque chose qui est fondamental, notamment pour nous orthophonistes, c'est-à-dire l'accès au symbolique. D'accord ? Se pouvoir se détourner en fait n'importe quel objet, on a tous vu des enfants qui mettent des boîtes à chaussures et qui partent faire du ski, qui prennent un feutre et c'est le téléphone. Voilà, cette fonction symbolique est absolument déterminante et elle participe à cette plasticité en fait cérébrale, ces interconnexions. Donc ça se fait avec des adultes, avec des frères et sœurs, avec d'autres enfants, mais aussi avec les objets. Et on va peut-être parler du jeu aussi après. Le jeu est fondamental parce qu'il... Il permet en fait toutes ces interactions-là de se faire.
C'est-à-dire que là, les écrans cassent ce processus de construction de la relation à l'autre, que ce
Exactement.
Soit les parents ou un frère ou une sœur, oui. C'est ça casse le processus.
Ça casse le processus, c'est-à-dire que ça détourne en fait l'enfant, et notamment le regard de l'enfant, parce que pour être vraiment dans le langage, il faut pouvoir avoir un regard qui se pose sur nous, donc un parent attentionné, qu'on parle de la même chose, qu'on puisse dénommer la même chose, montrer les choses, et ça c'est une attention conjointe et ça se joue dès la maternité.
Dès le messager,
on s'attarde juste une minute sur cette justement préhension des objets. Qu'est-ce que vous m'avez raconté, docteur Ducanda, justement sur ces enfants qui ont du mal, parce que ces objets on ne leur met plus entre les mains, on ne leur met plus en main des objets en bois, ils ont des tablettes et ils se comportent justement de façon très particulière.
Alors tout à fait, et j'ai hier une enseignante de maternelle qui m'a écrit et qui me dit constater depuis quelques années ce qu'elle appelle des mains papillons. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de ses élèves qui n'arrivent pas à fermer leurs doigts, ni à se saisir d'un crayon, ni à laisser une trace sur le papier. Leurs mains sont comme des petits papillons sans force, parce qu'elle a remarqué que pour utiliser la tablette, il est nécessaire d'ouvrir la la main et de frôler l'écran. Donc les enfants savent ouvrir la main et faire des gestes de frôler l'écran de, sans appuyer, et du coup ils ne peuvent plus refermer leurs doigts sur un objet.
C'est édifiant.
Et ce qui est aussi ce que vous me disiez, parce que c'est les exemples que vous voyez aussi, c'est un petit livre qu'on met entre les mains d'un enfant, l'enfant va le tourner. Eh bien, l'enfant qui est trop habitué aux tablettes, il ne va plus le tourner, il va glisser son doigt dessus, comme on le fait sur une tablette. Et il ne va pas avoir ce geste de pince entre le pouce et l'index.
Ça fait peut-être très, très vieux jeu, mais je trouve ça terrifiant. Magali nous appelle du Var. Bonsoir Magali, soyez la bienvenue.
Bonsoir, je vous remercie de me donner la parole.
Je vous en prie.
Donc, je suis psychologue dans les établissements scolaires du premier degré. Et je rencontre aussi quotidiennement des enfants qui sont surexposés aux écrans, qu'il s'agisse de télévision, de tablettes, de jeux vidéo, avec des comportements qui me semblent même addictifs, des enfants qui se lèvent la nuit pour jouer ou pour regarder la télévision en cachette. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui jouent à des jeux vidéo très violents, interdits aux moins de 18 ans, dès le plus jeune âge. Et c'est ceux-là justement qui ont des difficultés relationnelles ou attentionnelles. Donc la question que je me pose, c'est puisque apparemment il y a quand même un lien qui semble clairement établi, on le constate dans notre pratique tous les jours, entre les troubles rencontrés et la surexposition aux écrans, est-ce qu'il y a des plans d'action qui sont prévus au niveau de la Haute Autorité de Santé afin de faire un travail de prévention auprès des familles?
Question ultra pertinente, et avant de laisser nos interlocutrices répondre, j'aimerais donner la parole à Marie qui nous appelle de Paris. Bonsoir Marie.
Bonsoir. Bah oui, c'était un peu la même question sur la prévention, parce que j'ai deux enfants, j'ai beaucoup fréquenté les crèches, les maternelles et aujourd'hui l'école élémentaire. Et on voit pas d'affiches de prévention. À la limite, certains enseignants disent qu'il faut coucher les enfants tôt, mais on n'a pas, en tant que parents, été alertés comme on l'est sur d'autres risques. Enfin, je me souviens d'affiches à la crèche sur les fenêtres et les risques d'accidents domestiques. Mais pas sur les écrans, pourquoi ?
Eh bien, on va vous répondre, et à vous Marie, et à Magali, à quand donc une vraie campagne nationale de prévention d'information ? Pourquoi elle n'existe pas cette campagne ? Qui veut répondre ?
Moi, je veux bien répondre.
Anis Ducanda.
Donc, on est complètement d'accord avec vous sur la nécessité d'entreprendre une campagne de formation, et c'est pour ça qu'on alerte, que Carole Van Hout et moi-même nous alertons, que nous sommes 11-12 à être en train de créer un collectif de professionnels de la santé petite enfance à alerter. J'ai personnellement envoyé un mail et ma vidéo à la Haute Autorité de Santé il y a à peu près un mois, je n'ai aucune réponse. J'écris à l'Ordre des médecins, j'ai aucune réponse. Il y a des neuropédiatres qui ont écrit aux agences régionales de santé qui n'ont aucune réponse. Nous réclamons un plan Marshall prévention petite enfance écran avec des affiches, des mots dans le carnet de santé. Actuellement, vous avez dans l'Essonne, à la page 47, trois petites lignes en bas à droite écrit en tout petit sur les écrans.
Comment expliquez-vous cette inertie des pouvoirs publics?
Alors, c'est vrai que nous, entre guillemets, j'ai envie de dire, on n'a peut-être pas de mérite, c'est-à-dire qu'on a des enfants, des petits-enfants tous les jours avec nous. Et les pouvoirs publics s'appuient aussi sur des experts dont on peut un peu dire qu'ils ont un message un peu bienveillant avec les écrans, mais ils n'ont pas d'enfants sous les yeux tous les jours dans leur
cabinet. Est-ce que j'entends derrière ce que vous dites lobbying ou bon ?
On peut se poser la question.
Vous entendez ?
Et un langage parfois, pour parler des experts, un langage parfois un peu contradictoire, c'est-à-dire qu'on entend à la fois une espèce de mise en garde, mais en même temps il ne faut pas complètement laisser tomber ces objets. On n'est pas là pour dire il faut abandonner ces objets, on vit pas au Moyen-Âge, c'est clair. Mais cette prévoyance, elle n'est pas toujours effectivement bien mise en avant par les experts. Alors pour dire un mot sur la campagne, il existe entre guillemets une campagne qui n'a pas ce caractère officiel, mais que des professionnels de santé ont pris quand même l'initiative d'installer dans leur bureau, je le sais, qui est cette campagne 3-6-9-12, c'est-à-dire avant 3 ans, pas d'écran, pas de télé du tout, rien du tout. Avant 6 ans, pas de tablette. Avant 9 ans, pas de jeux vidéo, etc. Mais voilà, ça n'a pas le caractère aussi officiel qu'on pourrait le souhaiter en termes de prévention.
Carole Van Hout.
Après, c'est vrai qu'il y a quelques années, la campagne de Serge Tisseron, 3-6-9-12, était la seule existante. Et ça à mon sens, ça a correspondu à un moment aussi précis, à un moment de la société précis. Maintenant, quand on voit à quel point les écrans, en fait, font partie dans le foyer et que tout, mais absolument tout le monde est concerné, cette stricte application du principe 3-6-9-12 nous paraît un petit peu insuffisant, puisque la gestion des écrans maintenant doit être familiale. C'est pour ça que nous préférons les quatre pas en fait qui ont été Sabine Duflo à parler de la mise en place de ces quatre pas.
Qui est psychologue.
Qui est psychologue, tout
qui
à fait.
Et qui, a repris,
et qui a repris, en fait, les recommandations de, l'Académie en fait, américaine de pédiatrie. Et donc, c'est les quatre pas. Donc, pas de télé avant l'école, pas de télé pendant les repas, pas de télé dans la chambre, et il m'en manque un...
Juste avant de coucher, j'imagine.
Et pas tous les écrans.
Et voilà, et tous les écrans confondus, c'est-à-dire que...
Mais ça, on se dit que c'est du bon sens.
Non, alors il faut quand même rajouter que...
Annelise Ducanda.
On se dit, mais quand même, bon, bah, les écrans, s'il y en a un petit peu, c'est pas un problème. Nous, ce qu'on voit tous les jours, c'est l'effet addictif des écrans. C'est-à-dire que si l'enfant en fait une demi-heure, puis il va jouer au petit soldat, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il délaisse ses jouets, même s'il a des jouets super adaptés par rapport à son âge. Et ce qu'il veut, c'est les écrans, les écrans, les écrans. Et les parents me disent, on a supprimé le téléphone, il se jette sur le sac à main pour prendre le téléphone. Il pleure, il hurle, il casse tout. Tout à l'heure, un papa me dit, j'ai réussi à arrêter le téléphone, mais il est collé devant la télé. Je dis, mais vous pouvez pas arrêter? Il me dit, non. Depuis qu'on a arrêté le téléphone, si on ne met pas la télé, il casse tout. En fait, ça a l'effet d'une drogue. C'est vraiment impressionnant. C'est pour ça que le bon sens dit, bon, bah, les parents ont qu'à arrêter, mais en fait, c'est extrêmement difficile.
Et pour revenir, si c'est possible, sur cette notion de bon sens, après, nous, on est tout à fait d'accord. Les parents, moi, c'est ça, c'est vraiment une notion que je voudrais faire passer. C'est les parents sont compétents. Les parents ont du bon sens. Sauf que si vous regardez les magazines, des jouets, par exemple, à Noël, ou tout ce qui est proposé, les arguments sont éducatifs. Avec une tablette, enfin, on voit mettre une tablette sur les peaux des enfants pour qu'ils soient propres. Les tablettes dans les transats et tout ça, c'est très compliqué. Même s'il y a du bon sens, même si les parents sont compétents, on peut vite se faire rattraper en fait par les arguments marketing. Et là, attention.
Alors, le côté éducatif, justement, ce que mettent en avant, justement, les vendeurs de tablettes, et ce que constatent les parents, et pour autant, ils ont le sentiment de bien faire, c'est que, bah, regardez, mon enfant est plus éveillé, mon enfant parle anglais, alors on peut s'arrêter sur le mot « parle », c'est pas parce qu'il dit des mots d'anglais dont il ne comprend pas forcément le sens qu'il parle anglais, mais l'argument marketing, c'est de dire, ça va aider... les parents, ça va aider votre enfant à s'éveiller, à être plus ouvert aux langues étrangères, à être plus ouvert aux sciences. C'est ça qui est mis en avant.
C'est ça qui est mis en avant. Vous avez
Carole
tout à fait raison.
On part au standard, oui, allez-y.
C'est tout à fait ça. Sauf que on perd un petit peu de vue vraiment le besoin de l'enfant. Est-ce que un enfant qui regarde une application à un an et demi, on lui apprend les couleurs en anglais, en suédois ou je ne sais quoi, est-ce que dans sa pratique, à partir du moment où ses parents sont francophones, est-ce qu'il va en avoir besoin? Je ne pense pas. Après, que ça soit à 4, 5, 6 ans, ok, mais l'enfant n'a pas besoin de ces applications-là. Après, nous sommes dans une société de la performance, nous sommes dans une société où on doit apprendre des choses plus vite, mais attention, arrêtons-nous sur ce qu'est un enfant et ce dont il a besoin.
On repart au standard. Richard nous appelle de Grenoble. Bonsoir Richard, nous vous écoutons.
Oui, bonsoir. Écoutez, en fait, moi, c'est à la fois en fait une remarque et une question que je voulais faire. D'abord, parce qu'en fait, vous exposez beaucoup en fait le point de vue des parents et le point de vue des spécialistes. En revanche, les enfants ont leurs propres milieux sociaux. Et il faut bien prendre conscience que le lendemain matin, en fait, en arrivant à l'école, alors que les gamins, en fait, sont tous pourvus effectivement de téléphones portables ou font référence en fait à des émissions de télé ou à des séries qu'ils ont vues sur leur tablette, ils échangent entre eux. Celui qui ne l'a pas vu, elle sera nécessairement effectivement mis à l'index ou sera en fait en dehors du groupe. Alors moi, je voudrais savoir effectivement comment vous réglez ce problème, quoi. Parce que c'est bien beau, en fait, de dire, bon, les parents, les spécialistes, les psychologues, etc. Mais les enfants, en fait, ils ont leur vie. Je suis pas en train de dire, effectivement, que tout ça est normal, que tout ça est très bien. J'ai parfaitement pris conscience, en plus, si vous voulez.
Non, mais
en fait,
vous soulevez un point vraiment intéressant, Richard. Oui.
Et un des aspects, effectivement, que vous n'avez pas pris en compte également, si vous voulez, c'est que dans cette numérisation, effectivement, de l'enfance, il y a également, en fait, un intérêt économique et un intérêt capitalistique. C'est-à-dire, par exemple, le cartable électronique à l'école, Hewlett-Packard, etc. Ça aussi, j'aimerais bien que vous en causiez. Voilà.
Merci, Richard. Annelise Ducanda, comment vous recevez ce commentaire de Richard?
Alors, vous avez tout à fait raison, et je différencierai les tout-petits des plus grands. Je pense que les tout-petits, on ne peut pas avancer comme argument que le lendemain, ils auront loupé quelque chose sur le réseau social et ils n'auront pas vu l'émission de télé pour en discuter. Donc je pense que là, il n'y a pas discussion, c'est très 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 dur, mais il faut absolument limiter ou ne pas donner quand on ne peut pas limiter.
Qu'on soit précis et clair, fourchette d'âge.
Eh ben, écoutez, le monsieur parle de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire 7-8 ans. Enfin, avant 7-8 ans, j'espère qu'ils vont pas sur les réseaux sociaux. Après, maintenant, on voit des choses incroyables. Après, quand ils vont sur les réseaux sociaux, monsieur a raison, c'est extrêmement compliqué. Et enlever le téléphone portable de votre ado, qui est branché 24-24, pendant qu'il fait ses devoirs, pendant, enfin, tout le temps, pour savoir si son ami n'a pas mis une vidéo et qu'il va pas louper, etc. Mais c'est un phénomène chez les ados. Bon, moi, je m'occupe des tout-petits, mais on voit, en tant que personne, chez les ados, ce qui se passe. C'est extrêmement compliqué, on est d'accord, monsieur. Mais je pense que, étant donné les dégâts chez les tout-petits et même chez les ados, les parents doivent limiter les écrans. Mais c'est extrêmement compliqué par rapport au téléphone portable, par exemple, qui est leur téléphone portable. Je suis entièrement d'accord.
Je vous mets une autre question, celle de Claire Courriel, qui nous dit qu'il a durée quotidienne recommandée maximale d'exposition aux écrans, tous les écrans, pour la tranche des 6-7 ans.
Alors, les avis divergent. 6-7 ans, l'Académie américaine de pédiatrie et d'autres pays.
Celle du Canada aussi.
Voilà, c'est une heure.
Une heure par jour.
2 heures maximum par jour, tout écran confondu. C'est-à-dire que si l'enfant est dans le salon, la télé allumée, ça compte comme heure. Vous voyez que c'est extrêmement difficile.
C'est l'exposition passive, en fait.
Oui, c'est ça.
Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément, mais il y a cette exposition active où l'enfant est devant la tablette, devant la télé, devant le smartphone, dans l'ordinateur. Et il y a aussi toute cette exposition passive qui, de toute façon, va interférer et va avoir un impact dans le développement de l'enfant.
Vous faisiez allusion au tabac tout à l'heure avec votre introduction, Michael. On est un peu dans les mêmes termes. Hein.
Ah ben là, on retrouve aussi l'addiction, voilà. Passivité aussi. Annelise Ducanda, avant de repartir au standard, il y a énormément de questions liées à l'école justement et l'arrivée du numérique dans les écoles. Vous voulez y rajouter un mot ?
Alors, je suis très contente que vous m'interrogiez sur cette question puisque le gouvernement demande que le numérique rentre dans les écoles dès 3 ans à l'école maternelle et dans les programmes, quand vous déclinez les programmes, il y a écrit que l'enfant doit savoir faire utiliser telle et telle chose et doit savoir utiliser une tablette, un ordinateur et la souris.
Justement, on part dans le Morbihan. Bonsoir Florent, nous vous écoutons.
Oui, bonsoir. Effectivement, moi je fais partie du conseil des parents de l'école où est ma fille. Et depuis 2 ans, ils parlent d'équiper toute l'école dès la maternelle en tableau numérique. Et on parlait tout à l'heure de bon sens familial. Je me demande s'il n'y aurait pas un bon sens éducatif aussi en disant qu'il y a peut-être d'autres méthodes pédagogiques que de mettre les enfants derrière un tableau numérique, voire l'équipement de tablettes dans certaines classes.
Merci Florent, on est précisément dans le sujet, Annelise Ducanda.
Alors, je suis complètement d'accord avec vous, et donc le collectif qu'on est en train de monter, allons alerter les différents ministères concernés pour demander que l'école maternelle soit sanctuarisée sans écran. Les enfants en ont déjà trop chez eux. Il est hors de question de leur donner des écrans à l'école maternelle. Il faut savoir que tous les cadres des sociétés high-tech de la Silicon Valley payent des fortunes jusqu'à 18 000 euros par an pour mettre leurs enfants dans des écoles complètement dénuées d'écran et de numérique.
Mais c'est elle ce que s'appelle fait Mark Zuckerberg.
Exactement. Lui-même, donc Google, Apple, Twitter, Yahoo, Hewlett-Packard mettent leurs enfants dans l'école Waldorf qui est complètement dépourvue d'écran et d'ordinateur.
Daniel Messager.
Non, mais c'est assez édifiant, effectivement. C'est assez édifiant. Je voudrais revenir sur la notion de prévention. Vous disiez tout à l'heure, comment on peut alerter les services publics, la Haute Autorité de Santé, pour mettre en garde contre cette surexposition des petits-enfants. Là, on est bien, effectivement, monsieur intervenait tout à l'heure sur des adolescents, mais sur les petits-enfants, pour établir des règles, comme on établit des règles sur l'alimentation, par exemple. Il ne faut pas introduire chez les tout-petits tel produit avant tel âge, sur, effectivement, un impact avec le tabagisme. Est-ce que vous avez assez de poids pour intervenir auprès des organismes pour mettre en place ce type de campagne officielle qui aurait plus d'impact auprès de l'ensemble des parents?
Alors, je vais vous répondre. Ce que nous, ça fait, je vais parler de nous parce que l'association Je vous pense parle, nous, ça fait déjà à peu près 7 ans qu'on alerte. D'accord, mais c'était plus à titre individuel où on était 3 orthophonistes et voilà. Et en fait, on relate cette nécessité en fait de la prévention parce que on accueille ces enfants, on accueille les familles, on voit bien que le soin va vite être saturé. Donc on se dit mais oui, mais il faut qu'on sorte des cabinets pour cette fameuse prévention. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous les orthophonistes, nous sommes que entre guillemets paramédical. Donc nous ne sommes pas tellement écoutez, ça c'est une réalité. Là où ça a été vraiment une force aussi pour nous et qui a permis aussi à ce collectif de réfléchir à des propositions concrètes et tout ça, c'est parce que le docteur Annelise Ducanda à tirer la sonnette d'alarme. Ça, c'est vraiment quelque chose de très concret. Nous, on essaye de faire passer des messages, on essaye, donc on fait ça tous les jours, au cas par cas, avec les familles, pour les patients que l'on voit, mais la force d'être plusieurs professionnels à faire les mêmes constats d'obédience un petit peu différente, va nous permettre peut-être de prendre du poids, et voilà, on juste pour information, pour faire un tout petit lien par rapport à l'école du numérique, moi, on a été auditionné au Sénat il n'y a pas très longtemps, et je dis, mais on parle de l'école de l'égalité des chances. Moi, je pense sincèrement que l'égalité des chances maintenant, c'est de pouvoir remettre de l'humain et remettre une pédagogie complètement différenciée et accompagner ses enfants et pas proposer du numérique parce que c'est dans l'air du temps. L'enfant a besoin de l'être humain et a besoin d'un autre que soi pour se construire.
Une question qui vous est directement adressée, Carole Van Hout, c'est Anne-Marie à Quimper qui nous dit « En quoi les écrans entraînent-ils des retards de langage ?»
Par le temps volé, en fait, aux interactions. Hein, c'est un enfant qui passe beaucoup de temps devant l'écran, ou un parent qui passe aussi devant beaucoup de temps devant son écran, n'est plus en interaction avec l'autre, ne le regarde plus. Si on n'est plus en interaction, on ne s'adresse plus à l'autre. Donc si on ne s'adresse plus à l'autre, on ne lui parle pas. On ne va pas l'éveiller, on ne va pas le saisir dans sa curiosité. C'est globalement ça, c'est le nombre de mots. Bon, si tant est qu'on puisse résumer le langage à juste un nombre de mots. Mais voilà, ça, c'est vraiment très, très important.
Un auditeur nous appelle Yveline Soledad. Il n'est pas vraiment d'accord avec vous. Bonsoir, Soledad.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, on vous écoute.
Écoute, je pense qu'on parle beaucoup des effets nocifs des écrans et on ne dit rien de ces effets positifs. Moi, j'ai 4 enfants. Mes 4 enfants parlent 4 langues, et notamment l'anglais, parce qu'ils ont découvert que sur Internet, soit on parle en anglais, soit on est perdu, on trouve moins de références. Donc, ils ont appris à parler l'anglais par nécessité, par besoin de trouver ce qu'ils cherchaient. Donc, il y a aussi des effets positifs sur les écrans, et il n'y a pas que les écrans qui sont nocifs sur le développement de l'enfant. C'est clairement, quand on parle, par exemple, d'un parent qui ne regarde pas son enfant parce qu'il regarde l'écran, le problème, c'est pas que l'enfant soit devant l'écran, mais que les parents ne le regardent pas.
Mais nos professionnels de santé de la petite enfance, critiquent l'excès, pas l'objet en lui-même.
Oui, mais on parle que des effets nocifs des écrans et pas des effets positifs. On ne parle pas. Et d'autre part, je viens d'écouter, maintenant que j'étais au téléphone, quelqu'un qui parlait, par exemple, de tous les cadres de Silicon Valley qu'on voit ses enfants dans les écoles Montessori. Je voudrais bien savoir quelle est la source de cette information.
Tout à fait.
Annelise Ducanda, médecin de PMI Protection Maternelle et Infantile, va vous répondre, Soledad.
Alors, je peux tout à fait vous répondre. C'est un article de New York Times qui est sorti en 2014. Je n'ai plus le nom du journaliste en tête.
On va le retrouver.
Mais c'est un article du New York Times. Moi, je veux bien rebondir sur ce témoignage, madame. Alors, j'aimerais bien savoir quel âge ont vos enfants et à quel âge ils ont appris l'anglais sur les écrans. Moi, je peux certifier que de 0 à 4 ans, aucun enfant va apprendre une langue étrangère sur l'écran. L'enfant va répéter le mot en anglais par automatisme cérébral, mais ne va jamais apprendre. Ça, c'est une certitude.
Soledad, vous êtes toujours là ?
Oui.
Voilà.
Ben, on vous écoute. Répondez à la question, s'il vous plaît.
L'âge de vos enfants.
À quel âge ?
Pardon, à quel âge ?
À quel âge vos enfants ont appris une langue étrangère sur les écrans ?
Plus grand que 4 ans, ça c'est sûr.
Voilà, d'accord. Je pense qu'effectivement, il y a un âge où on peut peut-être apprendre avec les écrans. Enfin, on est complètement d'accord. Là, on se concentre évidemment hein, sur les effets négatifs sur les tout-petits. Moi, je voudrais rebondir sur l'explication des retards de langage. On pourrait dire, mais attendez, si quelqu'un lui parle dans l'écran, il voit un dessin animé, ça parle, pourquoi il n'apprend pas à parler l'enfant ?
Oui,
eh ben, en fait, l'enfant, il ne peut apprendre à parler que si quelqu'un s'adresse à lui, le regarde, lui parle à lui. Or, la télé, elle ne parle pas à l'enfant. Et lui parle de quelque chose qui veut dire quelque chose pour lui. Donc, par exemple, on est en train, de lui mettre sa chaussure. Et on lui dit, je mets ta chaussure. pendant qu'on lui met. Et là, le
mais
la
si
phrase...
on imagine un logiciel beaucoup plus performant, où justement on aurait un regard, par exemple, qui fixe directement l'enfant et qui s'adapte à une situation réelle, et ça, on se dirige vers cela avec des robots ultra perfectionnés. Est-ce que là, ce sera encore vrai ou pas?
Alors déjà, je ne sais pas, puisqu'on n'en est pas là. Il faut que ce soit un humain. Il faut que ce soit un humain qui parle à l'enfant.
Pour rebondir aussi là-dessus, c'est vrai que pour revenir aussi au langage, quelque chose qui est fondamental, c'est que le parent ou un adulte ou un être humain peut faire des hypothèses sur ce que l'enfant est en train de faire, sous ce que l'enfant est en train de dire. Seul l'humain est capable de mettre en sens ce que l'enfant est en train de faire. Et la naissance du langage, c'est ça. Le langage, c'est pas juste une série d'étiquettes ou comme un imagier. C'est-à-dire de mettre du sens à tout ce qu'il est en train de faire. Et ça, seul l'humain peut le faire. Même une caméra bio-ionique complètement insérée dans n'importe quel ordinateur. Moi, je n'y crois pas. On a quand même cette spécificité de l'être humain. C'est de pouvoir essayer de faire des hypothèses, de mettre du sens partout. Le langage est avant tout une histoire de sens. Et si l'enfant n'est pas dans le sens, eh ben, c'est pas un écran qui va le mettre dans le sens. Toutes ces hypothèses-là, c'est pas possible.
On est d'accord. Daniel Messager.
On revient au développement du cerveau de l'enfant. Ce qu'on a constaté aussi, et ça, ce sont des chiffres indéniables, c'est qu'il y a de plus en plus de petits-enfants qui sont diagnostiqués appartenant, alors attention au mot autisme, hein, parce qu'on fait très attention avec ce mot-là, mais au trouble du spectre autistique. C'est-à-dire, on revient à ces enfants qui ont des difficultés d'échange, de communication, qui ont des regards fixes.
C'est des symptômes qui sont proches de...
Voilà, symptômes. Et ces enfants sont identifiés comme tels. Ils sont envoyés dans des centres, ils sont envoyés dans des CMP. Et ce sont, vous me disiez, docteur Ducanda, en fait, de faux positifs, heureusement pour eux, parce que une fois qu'on régresse, c'est-à-dire qu'on diminue ces accès aux écrans, ces enfants ne présentent plus ces troubles-là.
Exactement. Donc, il y a une augmentation très nette.
Combien de temps pour se désintoxiquer des écrans?
Alors, je vais parler de ma pratique quotidienne. Ouais. Ça va dépendre de l'intensité et de l'âge où il a commencé. Et de ce qu'il y a à côté. Parce que vous pouvez avoir 5 heures d'écran, et à côté, vous lui parlez, vous le sortez au parc, vous jouez, vous rigolez avec lui. Ou 5 heures d'écran, et à côté, vous vous adressez peu à votre enfant, vous êtes vous-même sur les écrans. Donc c'est un tout. C'est un tout. Mais ce qu'on remarque, c'est que les chiffres montent de partout. Personne ne peut nier qu'il y a une augmentation exponentielle des troubles autistiques. Et nous, on se demande si dans ces troubles autistiques, il n'y a pas des faux positifs. Parce que moi, je vois des enfants diagnostiqués par les centres référence autisme ou les hôpitaux autistes qui, un mois après les écrans, je sais que ça paraît incroyable, mais c'est vrai, n'ont plus de troubles autistiques. Donc il faut vraiment que les neuropédiatres, les pédopsychiatres, les médecins des CRA questionnent la question des écrans. On sait que le développement de l'enfant de 0 à 3 ans est lié à 95% à son environnement. Pourquoi ne questionne-t-on pas cet environnement avant de l'envoyer vers les soins en disant, voilà, c'est ce diagnostic.
C'est fondamental. Alors, et c'est crucial. On part une dernière fois au standard. Willem, bonsoir, tu es là, Willem?
Oui.
Quel âge as-tu, Willem? Excuse-moi.
J'ai 14 ans.
Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire ce soir au téléphone, son Willem?
Je vais vous dire que je suis... Je vis, en fait, sans écran. Enfin, presque sans écran. J'ai un petit téléphone, un très vieux téléphone. Et même si j'ai un peu de mal à m'adapter quand même dans l'école...
C'est-à-dire que c'est pas un smartphone, quoi?
Non, pas tellement, ouais. Non.
T'as juste un clavier, il n'y a pas d'écran?
Si, j'ai un écran, mais...
C'est le truc à clapper?
C'est presque ça. Presque ça.
D'accord.
En fait.
Historique.
Vas-y, j'arrête de te couper, vas-y.
Je m'adapte très bien, je parle tous les soirs avec mes parents. La plupart du temps, quand mon père prend son téléphone, c'est pour écouter la radio. Hein, et puis moi, je ne m'en sers pas pour grand-chose. Des fois, quelquefois, je regarde des vidéos sur Internet, parce que
T'as l'ordinateur?
L'ordinateur de mon père, oui.
Ouais. T'as la télé aussi, Willem, ou pas?
Non, j'ai pas la télé, non.
Ah oui. Ça te manque pas?
Comment?
Ça ne te manque pas? Parce que c'est bien d'écouter France Inter, mais enfin tout le temps.
Oui, mais non, je vis sur la télé et je vis bien. Je suis pas un génie, mais enfin je...
Qu'est-ce qu'il pourrait dire au centre?
On entend aussi que tu discutes quand même énormément avec tes parents, nous dis-tu.
Oui.
C'est important ça, et t'aimerais que ce soit comme ça. Ce serait un conseil que tu pourrais donner à tes copains, à tes copines. Discuter un peu plus avec les parents et lâcher un peu les écrans.
Oui, bah en fait, si je suis amie avec les personnes avec qui je suis amie sont pas si accro en fait aux écrans.
Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis pas tant accro que cela? Ça veut dire quoi?
Ils pourraient s'en débarrasser, mais les premières personnes que j'ai connues, bah en fait c'était quand j'étais en 6e, on leur demandait est-ce que vous pourrez se débarrasser d'un écran pendant 6 mois. Ils répondaient c'est pas possible.
Mmh. Oui. On est obligé de te laisser là, Willem, puisque l'émission se termine. Merci beaucoup d'avoir appelé le standard de France Inter. Merci infiniment à toutes les trois, Annelise Ducanda, médecin de PMI, donc protection maternelle et infantile, à Viry-Châtillon, c'est dans l'Essonne. Mais merci Carole Vanhout, orthophoniste dans le Val-de-Marne et cofondatrice de cette belle association Joue, Pense et Parle. Et merci beaucoup Daniel Messager, spécialiste des questions de santé ici même à France Inter. Je crois sincèrement, vu le nombre d'appels, qu'on va en refaire un sur la même problématique, la même thématique. Très rapidement.
Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous.
Dans une minute, un nouveau journal.